j'ai une bonne question pour vous. L'homme va-t-il trouver une solution qui apportera la paix mondiale un jour? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse assez étonnante. Aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on a de très bonnes questions à poser au livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Alors allons-y, sans plus tarder. Est-ce qu'on peut savoir qui montait le cheval blanc quand Jésus a ouvert le premier des sept sceaux de l'Apocalypse? Qui montait le cheval roux? Qui montait le cheval noir? Qui montait le cheval verdâtre? Quel genre de personne sera l'Antéchrist? L'homme va-t-il trouver une solution qui apportera la paix mondiale un jour? La Bible nous donne-t-elle des indices qui démontreraient que nous nous approchons des temps de catastrophe sur la terre? Quand l'Église sera enlevée, quelle proportion l'injustice atteindra-t-elle? De quelle manière la majorité des gens mourront-ils pendant la grande tribulation? Est-ce que la mort se limite à sa dimension physique? Demeurez avec nous. Le pasteur et Jean Joly est sur le point de répondre à chacune de nos questions par la parole merveilleuse de Dieu. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, ta parole est merveilleuse. Elle transforme nos vies. Et on désire que ce soit toi qui nous enseignes par la bouche de ton serviteur aujourd'hui. Touche nos cœurs, Seigneur. Viens nous chercher profondément, au plus profond de nous, Seigneur, qu'on puisse assimiler cette parole et non seulement l'assimiler, mais la mettre en pratique dans nos vies pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous continuons notre étude du livre de l'Apocalypse. Nous abordons aujourd'hui l'étude du chapitre 6. L'ouverture du premier sceau, le cheval blanc. Le Seigneur Jésus-Christ prend le livre aux sept sceaux et il ouvre le premier sceau. C'est ce que nous lisons, Apocalypse, chapitre 6, versets 1 et 2. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Jésus ouvrira les sceaux un par un, dans un ordre précis. Il tient fermement le contrôle des opérations entre ses mains. Toutes les créatures des cieux vont et viennent selon sa volonté. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse font maintenant leur entrée en scène, l'un après l'autre. Jésus ouvre le sceau. À ce signal, un des quatre êtres vivants qui s'était auparavant prosterné devant lui donne l'ordre au premier cavalier de venir. En passant, le verbe du texte original grec est « erkomai ». Il peut tout aussi bien signifier « venir » que « aller ». Le premier cavalier s'approche pour recevoir sa couronne et il part ensuite dans le monde pour vaincre. Tout s'effectue avec ordre et sans aucune discussion. Jésus dirige les opérations sans que ses ordres soient contestés par ses puissants êtres. Encore une fois, l'apôtre Jean nous rapporte ce qu'il a vu et entendu. Il travaille comme le ferait aujourd'hui un journaliste. On a beaucoup essayé de déterminer l'identité du cavalier monté sur sa pâle monture. Les opinions divergent. Beaucoup d'interprètes ont exprimé l'avis qu'il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Ils se servent du psaume 45 et du 19e chapitre de l'Apocalypse pour étayer leur position. Or, la plupart des prémillénaristes contemporains, comme Scott, Ironside, Schaeffer, Walvoord, Woodbridge et Pentecost, soutiennent que ce cavalier est au contraire l'Antéchrist. Et je suis d'accord avec eux. Il serait curieux de voir Jésus ouvrir le premier sceau pour ensuite se dépêcher d'enfourcher son cheval afin d'obéir à l'ordre qu'a lui-même donné en ouvrant le premier sceau. Cette difficulté est éliminée lorsqu'on considère que ce cavalier est l'Antéchrist, c'est-à-dire une imitation, une contrefaçon du véritable Jésus-Christ. L'Antéchrist prétendra être Jésus-Christ. Actuellement, le monde se trouve dans une position idéale pour être asservi par un dictateur qui étendrait son autorité à toute la planète. Pratiquement toutes les nations du monde vivent de sérieuses difficultés. L'anarchie grandit, car les gouvernements ne sont plus en mesure d'assurer l'ordre et les modèles de comportement se font rares. Tout cela met la table pour un homme fort qui arriverait sur la scène mondiale pour y mettre un peu d'ordre. L'époque dans laquelle nous vivons en ce moment ressemble en beaucoup de points à l'entre-deux-guerres. Peu après la Première Guerre mondiale, les spéculateurs malhonnêtes ont plongé le monde dans sa première grande crise économique. Un des pays les plus durement touchés a été l'Allemagne. À la crise économique s'ajoutait une crise politique. Adolf Hitler s'est alors présenté comme un homme qui pouvait rétablir l'ordre et redonner sa fierté au peuple allemand. On connaît la suite. La venue de l'Antéchrist. Aujourd'hui, avec la mondialisation, le phénomène qui s'est produit en Allemagne pendant les années 30 pourrait se reproduire à l'échelle mondiale. Ne nous faisons aucune illusion. L'Antéchrist ne se présentera pas avec des cornes à la tête et des sabots aux pieds. Rappelons-nous que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. L'Antéchrist sera au contraire doté d'un fort charisme et il attirera les foules à lui. Personne n'aura jamais joui d'une telle popularité aux yeux du monde. Ils les liront et le monde l'acclamera, car il s'identifiera à lui. Il viendra en son propre nom, mais une fois son emprise assurée, il montrera son véritable visage au monde, mais alors il sera trop tard. Pour en revenir à l'entre-deux-guerres, écoutons A.G. Toynbee, un des historiens les plus influents de cette époque. Car sa déclaration pourrait très bien s'avérer prophétique, elle aussi. Nous avons imposé à l'humanité des armes de plus en plus destructrices, tout en rendant le monde de plus en plus interdépendant économiquement et technologiquement. Nous l'avons ainsi conduit à un tel degré de détresse qu'il est maintenant mûr pour diviniser un nouveau César. Tout ce qu'il aurait à faire, c'est de lui promettre la paix et l'unité. Et si cela était vrai au XXe siècle, ce l'est encore bien plus aujourd'hui. Je suis convaincu que l'Antéchrist consolidera son pouvoir mondial avec ce genre de promesses. Si quelqu'un apparaissait aujourd'hui sur la scène internationale en offrant au monde l'unité et la paix, le monde ne lui demanderait pas quelles sont ses véritables intentions. Car nous désirons la paix dans le monde et nous dépensons annuellement des sommes colossales pour y parvenir. J.K. Chesterton a un jour fait l'observation suivante. Un des paradoxes de notre temps est que nous parlons beaucoup de paix, mais nous ne la vivons pas. Les pays occidentaux injectent de grosses sommes depuis plusieurs décennies pour la paix mondiale, mais celle-ci semble s'éloigner au lieu de se rendre plus accessible. Quand le mur de Berlin est tombé, les gens ont salué la fin de la guerre froide. Ils pensaient que si les États-Unis demeuraient la seule superpuissance, la paix dans le monde semblait assurée. On connaît la suite. Quand l'Antéchrist prendra le pouvoir, il parlera beaucoup de paix. Le monde pensera entrer dans l'ère du millénium, alors qu'en réalité, il entrera dans la grande tribulation. Cette grande tribulation commencera comme un agneau et elle finira comme un lion. La promesse de paix est le grand mensonge que tout le monde croira. Notre premier cavalier ne peut pas être Jésus-Christ, car ce dernier est le seul véritable agneau de Dieu, assis au milieu du trône céleste. Il est le lion de Juda et le rejeton de David. Il dirige les événements du haut des cieux jusqu'à son retour. C'est lui qui ordonne aux quatre cavaliers de l'Apocalypse de venir et d'aller. Or, Jésus est clairement identifié au chapitre 19, alors qu'ici, l'identité du cavalier demeure incertaine. Cela suggère qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ, mais d'une contrefaçon. L'ouverture du second sceau, le cheval roux. Apocalypse, chapitre 6, versets 3 et 4. « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Le premier cavalier ne pouvait pas être Jésus-Christ, car lorsque celui-ci reviendra dans le monde, il inaugurera une ère de paix durable. Or, la paix des hommes ne dure jamais bien longtemps. Après l'envoi du premier cheval, le deuxième arrive sur la scène. Il s'agit définitivement d'un cheval de guerre. La paix et l'unité que le premier cavalier avait apportée sur la terre étaient donc factices et de courte durée. L'Antéchrist se présentera comme un dirigeant capable d'apporter la paix dans le monde, mais il ne pourra pas tenir ses promesses pendant longtemps. Car, comme il est écrit, dans le prophète Ésaïe, chapitre 57, verset 21, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Et l'histoire humaine a, dans son ensemble, certainement accompli cette prophétie. Beaucoup de gens ont pris le pouvoir en promettant la paix. Au temps de Jésus-Christ, l'empereur romain Jules César avait dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Après la Première Guerre mondiale, beaucoup de politiciens des deux côtés de l'Atlantique se sont fait élire avec, sous une forme ou une autre, le mot d'ordre suivant « Plus jamais ça ». L'Antéchrist nourrira le monde avec l'illusion de la paix, mais il ne pourra pas la porter, car tout de suite après lui, le cheval roux de la guerre fera irruption sur la terre. Et le monde assistera alors à une guerre telle qu'il n'y en aura jamais eu auparavant. Cette prophétie n'a pas encore été accomplie. Elle est réservée pour l'avenir. L'ouverture du troisième sceau, le cheval noir, versets 5 et 6. « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Une fois de plus, l'apôtre prend soin de nous préciser qu'il a entendu et regardé toutes ces choses. Le cheval noir représente la famine qui sévira sur toute la terre après la guerre. Les guerres sont très souvent suivies de famines et d'épidémies. Dès l'époque du prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, on remarque la séquence « guerre et famine », entre autres dans Lamentations, chapitre 4, versets 8 et 9. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Dans les deux passages, le noir représente la famine. Après la guerre, la nourriture vient souvent à manquer. Une mesure de blé pour un denier. L'historien grec Hérodote précise qu'une mesure de blé équivaut à la ration quotidienne d'un soldat. Et, comme l'évangéliste Matthieu, chapitre 20, verset 2, nous l'indique, un denier équivaut au salaire d'une journée. En conséquence, un ouvrier ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille dans de telles conditions. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. L'huile et le vin étaient des produits de luxe réservés aux riches. L'huile correspondait à nos produits de toilette et à nos cosmétiques. Le vin correspond bien sûr à l'alcool. Certains ne seront pas peut-être pas d'accord, mais ces produits ne sont pas nécessaires pour vivre. Au moment où le peuple n'aura même pas assez de nourriture pour manger, les riches auront assez de raisins pour faire leur vin. Aujourd'hui même, l'écart entre les salaires des riches et la moyenne de la population atteint des proportions stupéfiantes et il s'agrandit d'année en année. Voilà un autre indice qui semble indiquer que nous nous approchons de ces temps de catastrophe. En temps de guerre, les riches n'ont jamais manqué de superflu et les pauvres ont toujours été privés du nécessaire. Aujourd'hui, on demande aux ouvriers d'accepter des diminutions de salaire sous prétexte que la compagnie est en difficulté et pendant ce temps la prime des patrons augmente. Cette inégalité sociale est typique de l'ensemble des sociétés humaines et il serait naïf de s'attendre à ce que les hommes partagent également leurs ressources entre eux de bon gré. Et quand l'Église sera enlevée de la terre, l'injustice atteindra des proportions inégalées. Je lisais récemment dans un journal qu'on reproche aux chrétiens de profiter de l'insécurité présente des gens pour répandre l'Évangile à travers le monde. Les athées me font bien rire. Au début du XXe siècle, le monde occidental vivait dans une prospérité et une paix relatives. On ridiculisait alors les chrétiens en disant que seuls des naïfs pouvaient encore croire en Dieu, alors que l'homme se préparait à créer son propre paradis sur terre. Mais maintenant que les choses prennent mauvaise tournure, les chrétiens sont devenus des profiteurs. En d'autres mots, que Dieu bénisse ou maudisse, les chrétiens auront toujours tort aux yeux des aveugles spirituels, si vous me permettez l'expression. Dans le monde, il existe deux types d'aveugles spirituels, ceux qui veulent guérir de leur handicap et ceux qui ne veulent même pas qu'on leur en parle. Des gens bien intentionnés tentent de lutter contre la pauvreté. Je ne doute aucunement de leur bonne volonté, mais Jésus a affirmé que nous aurions toujours des pauvres parmi nous, car l'injustice sociale est une conséquence du péché. Et tant qu'il se trouvera du péché dans le cœur de l'homme, le partage des ressources ne se fera jamais d'une manière juste. Et jusqu'au retour de Jésus-Christ, ce partage équitable des ressources est une pure utopie, et les choses ne s'arrangeront nullement avec le temps. Et cela n'a pas changé. Au temps de Jésus, les empereurs vivaient dans l'opulence et le peuple dans la famine. Même chose au temps de Louis XV, et plus tard pendant la Révolution industrielle, même si les grands patrons avaient alors pris la place des rois. En 1798, le révérend Thomas Malthus concluait que « le pouvoir de la population est infiniment plus grand que le pouvoir de la terre pour produire de la nourriture pour l'homme ». Plus près de nous, en 1959, les Nations Unies ont réuni 77 nations autour de l'Organisation de la nourriture et de l'agriculture à Rome afin de parler du problème de la faim et de la malnutrition. Pendant cette conférence, Toynbee a déclaré « Tôt ou tard, la production de nourriture atteindra ses limites. Si la population augmente encore à ce moment, la famine exterminera autant de gens que la combinaison des guerres et des épidémies. » Sir John Boyd, au temps où il était directeur général de cette même organisation, a déclaré, quand il a quitté son poste, « Laissez-moi donner un dernier avertissement au monde. Si ce problème n'est pas réglé, dans 50 ans, nous traversons une période de chaos inouï. Les nations de ce monde ont perdu la raison. » Quand il a fait cette déclaration, on ne savait pas encore que les problèmes de famine dans les pays tropicaux allaient encore empirer à cause du phénomène de désertification des terres cultivables, lui-même généré par les changements climatiques. Aujourd'hui, plus de gens meurent de faim qu'à n'importe quelle autre époque, et la situation s'aggrave de jour en jour. L'ouverture du quatrième sceau, le cheval verdâtre. Apocalypse, chapitre 6, versets 7 et 8. « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Dans le grec, comme dans l'hébreu, le mot traduit ici par « mortalité » peut également être traduit par « peste ». Cette traduction semble meilleure, car la phrase « pour faire périr les hommes » par la mortalité est redoutante. Car c'est bien de peste et d'épidémie qu'il s'agit ici. Nous avons déjà parlé de la séquence guerre-famine-épidémie, d'ailleurs remarquée dans le prophète Ézéchiel chapitre 7 verset 11. Dit « Hélas, sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. » au temps de la grande tribulation, la guerre, la famine, les pandémies et les bêtes sauvages tueront un quart de la population de la Terre. Ces dernières années, on a remarqué que certains germes s'étaient développés des résistances aux antibiotiques. Le quatrième cavalier porte le nom de la mort. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, car il n'y a plus à l'être humain que la simple dimension physique. La mort physique n'est rien de plus que la cessation d'activité physique. Quand la mort s'empare du corps physique, l'esprit d'un homme perdu se rend au séjour des morts, connu, dans le grec, sous le nom Hadès. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. On identifie parfois le séjour des morts ou Hadès à l'enfer. C'est une erreur. L'Hadès est l'endroit où l'esprit se rend après la mort physique, où il se réfère à l'endroit où le cadavre est placé. L'Hadès est donc une destination temporaire en attendant le jugement de Dieu. Jésus en parle de cette manière dans la parabole de Lazare et de l'homme riche. L'enfer, quant à lui, sera l'endroit où les âmes des damnés seront envoyées pour l'éternité après le jugement de Dieu. Pour bien comprendre ce passage, il paraît utile de se référer à Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La mort et le péché sont entrés dans le monde en même temps. L'homme avait été créé pour vivre éternellement, mais Dieu avait posé une condition. Il avait clairement averti Adam dans Genèse chapitre 2 verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais l'homme a désobéi quand même. La mort est la conséquence du péché, comme l'affirme clairement Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Au moment où il a désobéi à Dieu, Adam est mort spirituellement. La mort physique, beaucoup plus tard, est seulement venue confirmer sa mort spirituelle. Par sa désobéissance à Dieu, l'homme se coupe de ses racines spirituelles, comme une fleur dont on tranche la tige. Et si rien n'est fait, elle se fanera rapidement. En d'autres mots, la mort ne se limite pas à sa dimension physique. Avant cela, nous avons la mort spirituelle. Elle consiste en une séparation d'avec Dieu, résultant de notre rébellion envers lui. Nous avons tous hérité cette nature rebelle d'Adam, et ainsi le péché et la mort se sont transmis de génération en génération. Dès sa naissance, l'homme est mort spirituellement, et il peut seulement vivre spirituellement en recevant personnellement Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. À ce moment, il n'est plus mort en Adam, mais il est dès lors ressuscité en Jésus-Christ. Sinon, la dernière mort, la mort éternelle, suit la mort spirituelle et la mort physique. Le damné est alors condamné à demeurer éternellement séparé de Dieu. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 20 de l'Apocalypse. Pour le moment, le chrétien trouve son réconfort dans le fait qu'il est délivré de cette mort éternelle. Car il est vrai que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 23. Et la suite se lit ainsi. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors la question se pose. Es-tu mort spirituellement ou possèdes-tu la vie éternelle en Jésus-Christ? Oui, chers amis, c'est l'offre que Dieu vous fait. Et c'est à vous de prendre la décision, de faire le choix immédiatement. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 6, les versets 9 à 17. À vous tous, bonne lecture.
Merci Régent. Mes amis, quel enseignement on vient de recevoir du livre de l'Apocalypse. Vers la fin du message, Régent a dit une chose très sérieuse que j'aimerais répéter. Il a dit que par sa désobéissance à Dieu, l'homme se coupe de ses racines spirituelles comme une fleur dont on tranche la tige. Et il a ajouté que si rien n'est fait, elle se fanera rapidement. Mes amis, je ne crois pas que la majorité des gens se soucient de la mort spirituelle. Je sais pertinemment que je ne m'en souciais pas du tout avant d'avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus. Et maintenant, je comprends qu'il existe une mort spirituelle qui consiste d'une séparation d'avec Dieu et résultant de notre rébellion envers Lui. Et comme Réjean nous l'a si bien expliqué aujourd'hui, dès notre naissance physique, on est tous morts spirituellement. Et le seul moyen de vivre spirituellement, c'est de recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et là, on ressuscite spirituellement, on est délivré de la mort éternelle. Quel réconfort pour le croyant. Merci Seigneur. Et toi, mon ami, es-tu né de nouveau? As-tu accepté Jésus comme sauveur et Seigneur? As-tu cette certitude que le jour où tu mourras physiquement, tu continueras à vivre éternellement dans la présence de Dieu? Sinon, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe à quel point tu as pu pécher au cours de ta vie, et peu importe même si tu es une bonne personne qui ne pêche à peine, tu entres dans la catégorie de tous les pécheurs perdus. Comme Réjean l'a mentionné à la fin de son message aujourd'hui, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, versets 23 et 24, permets-moi de te lire dans la version Semeur. « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Mon ami, aimerais-tu être déclaré juste? Aimerais-tu recevoir cette délivrance aujourd'hui? Eh bien, tu le peux. Si tu crois en Jésus seul pour le pardon de tes péchés. Durant mes premières années en tant que chrétienne, il y avait un cadre à l'Église où il était écrit deux versets dans l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 10. Ce sont les versets 9 et 10 qui disent que si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Alors mon ami, crois-tu dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu dans ton cœur qu'il est Dieu fait homme et qu'il est venu sur cette terre pour payer la dette de ton péché? Crois-tu qu'il est mort sur la croix? Qu'il a reçu la condamnation qu'on mérite tous parce qu'on est tous des pécheurs? Alors, mon ami, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en détourner absolument. Mais on n'en peut pas. On ne peut pas, on n'a pas la force de le faire sans que Dieu nous fasse grâce, sans sa puissance. Alors invite Jésus à devenir ton sauveur, ton Seigneur, ton Maître merveilleux, et tu vas recevoir par le fait même le don gratuit de la vie éternelle.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le, rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour, il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle, appelle maintenant.
Voici nos coordonnées, par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.